Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour en Italie en allant dans le quartier des Beaux-Arts. C'est la librairie La Cavale qui nous invite à cette escapade transalpine avec une série de rendez-vous, bien sûr intitulée Cavale en Italie, donc Cavalon. La Librairie La Cavale, je le rappelle, a été créée fin 2018, rue de la Cavalerie. Son ambition, s'adresser à toutes et tous, des publics les plus proches du livre aux plus éloignés. Elle se caractérise doublement. D'abord par son fonctionnement, c'est une coopérative, plus exactement une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Elle compte plus de 400 coopératrices et coopérateurs qui, appuyés sur trois libraires, assurent les fonctions d'organisation, de gestion, d'animation et de communication. Deuxième signe distinctif, de multiples et diverses initiatives, rencontres avec les lecteurs, échanges entre lectrices, lecteurs et auteurs, animations autour du livre, des livres. Parmi celles-ci, depuis le 4 mars et jusqu'au 8 avril, figure le programme de la Cavale en Italie. Pour nous en parler, j'ai invité Simona Miglietta et Rosemary Oriols, avec deux autres coopératives de la vaillante équipe de la librairie, Marie-Thérèse Chemla et Sylvie Guébel. Elles ont conçu et organisé ce programme qui nous embarque au-delà des Alpes. Simona Miglietta et Rosemary Oriols, merci d'être venues au micro nous transmettre votre flamme pour la littérature italienne. Simona Miglietta, vous êtes chargée de cours au département d'italien à l'Université Paul Valéry. Vous travaillez aussi au sein de l'association d'éducation populaire Italia a due passi, l'Italie à deux pas de Montpellier, partenaire de la Cavale en Italie avec l'Institut culturel de Marseille, l'Institut italien culturel de Marseille. Rosemary Oriols, ancienne inspectrice de l'éducation nationale, fait partie des très actifs coopérateurs de la Cavale. Vous êtes engagée dans la vie associative de Montpellier, notamment à la CIMADE, et vous apprenez l'italien à l'association dont je viens de parler, Italia Due Passi. Avant de nous faire découvrir la Cavale en Italie, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au pontré de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Rosemary Oriols, alors quels sont les lieux que vous appréciez particulièrement et pourquoi ? Vos lieux d'élection ou d'affection.
Voilà, donc moi, comme beaucoup de Montpelliériens, je ne suis pas née à Montpellier. Je suis d'origine catalane et je suis arrivée à Montpellier il y a une quarantaine d'années. Voilà, ce qui m'a immédiatement touchée et plu à Montpellier, c'est l'animation, une ville ouverte. Et ce que j'aime particulièrement maintenant, que je continue d'aimer, ce sont les terrasses, oui. Les terrasses des cafés. Pourtant, je ne bois pas beaucoup, pas du tout de vin ni de café, mais j'aime cette idée d'être autour d'une table, de discuter, de regarder les autres, de s'imprégner de cette ambiance. Voilà.
Comme en Italie d'ailleurs.
Comme en Italie. Et c'est vraiment c'est l'idée de l'apéritivo, l'idée du café, mais voilà. Deuxième point, j'aime le quartier de l'ancien courrier. J'adore ce quartier, j'aime imaginer comment on vivait autrefois et je m'y promène très souvent. Et un troisième lieu que j'affectionne aussi, c'est le lieu où j'habite. Moi, j'habite à La Paillade, en haut de La Paillade. Il y a un lac, oui. En haut de La Paillade.
Le lac des Garrigues.
Et au-dessus et au-dessous de ce lac, une grande coulée verte avec de grandes promenades au milieu des pins, à côté de la Mausson. Et c'est un lieu, vraiment, je m'y promène presque tous les jours quand je peux. C'est un lieu que j'aime beaucoup.
Très bien. Alors, même question à Simona. À Montpellier depuis une vingtaine d'années, m'avez-vous dit, alors quels sont les lieux que vous préférez ?
Alors, j'aime beaucoup, beaucoup de lieux à Montpellier. J'aime surtout également l'atmosphère. J'aime respirer l'histoire quand je suis au centre-ville. J'aime ces parcs. Je viens de villes beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes que Montpellier.
C'est-à-dire ?
J'ai grandi à Bologne. en Italie. Après, j'habite à Bruxelles et à Barcelone.
Ah oui, dans des villes plus grandes, nettement plus grandes, 4 ou 5 fois plus grandes. Quoi, oui.
Assez. Mais je trouve justement que Montpellier, avec sa taille qui était humaine quand je suis arrivée, maintenant elle grandit de plus en plus, mais ça garde quand même cette taille humaine, ce qui fait que ben, quand on se balade dans les quartiers, on rencontre toujours des amis par hasard. C'est ce que j'aime beaucoup. Et puis, je l'aime tellement, cette ville, que j'ai voulu en savoir plus. Et s'il y a des lieux que j'apprécie particulièrement, c'est aussi parce que j'y trouve un petit peu de mon Italie.
Ah, c'est ça. On en parlera. Il y a des traces de l'histoire de Montpellier qui renvoient d'une manière ou d'une autre à l'Italie.
Mais
ça,
oui.
On a aiguisé, j'espère, la curiosité des auditeurs et auditrices. On en parlera un peu plus tard.
Oui.
Alors, même question. Vous avez évoqué d'autres villes. Mais en poussant plus loin le regard, qu'est-ce qui singularise Montpellier? Les signes distinctifs qui en font une ville. Bon, métropole, certes, comme d'autres, mais pas comme les autres.
Alors, pour moi, arriver à Montpellier et voir la vie culturelle de Montpellier a été extrêmement important. Sinon, je ne pense pas que je serais restée.
Ah oui, c'est vrai.
Je suis quand même restée. Et aujourd'hui, ce que je trouve particulièrement beau, c'est de voir toute la jeunesse dans cette ville, pas uniquement dans notre université.
Presque un quart de la population, quoi, 50 000 étudiants, peut-être plus, hein, tout confondu, donc, y compris l'université Paul Valéry, là au nord de la ville, bien sûr. Et alors donc, même question, Rosemary, pour finir ce petit tour de piste, qu'est-ce qui, à votre avis, distingue Montpellier, lui donne un style particulier, peut-être, une manière d'être une ville spécifique?
Alors bon, je pourrais répéter les mêmes choses que Simona, mais je les partage aussi. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que pour moi, Montpellier, c'est une ville animée, vivante, ouverte, et elle est près de la mer. Ça, pour moi, c'est très important.
Comme pour beaucoup.
De Montpellierin, voilà.
C'est vrai qu'en arrivant à Montpellier, je me suis sentie chez moi parce que mon père était du sud de l'Italie et j'ai trouvé un ciel très semblable. La distance avec la mer de cette ville qui s'appelle Lecce et qui a même une pierre qui est très similaire.
Ah oui, à la pierre blanche de Castries qu'on trouve souvent dans les bâtiments anciens de Montpellier. Très bien, alors... cette petite promenade, on y met fin et on se tourne vers l'Italie, vers Cavale en Italie. Alors, Rosemary, quel était l'objectif, l'ambition générale de ce nouveau rendez-vous proposé par la Cavale?
Alors, la Cavale a le souci et la volonté, de promouvoir la littérature étrangère. Donc, ce premier rendez-vous avec l'Italie, on n'est pas encore tout à fait sûr parce qu'il y a beaucoup de projets à la Cavale, mais l'idée, ce serait d'inaugurer un voyage en Méditerranée.
Avec les pays qui autour de la Méditerranée.
Voilà, avec peut-être un mois espagnol ou une semaine espagnole, peut-être portugaise, peut-être maghreb, mais là peut-être que j'invente et je précède les projets, mais bon, voilà, c'est un peu cette idée.
Vous nous donnez envie de nous intéresser au prochain rendez-vous que la Cavale pourra proposer dans les mois et années qui viennent.
Voilà.
Alors nous allons donc parcourir en détail le programme. Il comporte 4 soirées littéraires. Une matinée pour des lectures de livres jeunesse en français et en italien, et enfin une expo photo. Alors, le premier rendez-vous a déjà eu lieu, c'était le 4 mars. Alors, on va en parler toutefois. Petit retour en arrière, le thème était intitulé « Polar, roman noir au pluriel et papilles ». Vous voyez l'image. Alors, Simone Amiglietti, de quoi s'agissait-il ?
Alors, c'était une soirée où il s'agissait de littérature italienne. Ce qu'on appelle polar en français, en italien, on peut l'appeler aussi giallo, jaune, et roman noir, que nous appelons noir, et papi, c'est-à-dire la cuisine dans les polars et romans noirs en Italie. Parce qu'il y a un très grand engouement en Italie pour ce genre genre littéraire, et on y mange tout le temps. Et donc, on s'est posé la question avec Paola Casadei.
Pourquoi
Qu'est-ce que ça cache? Et donc, on a demandé à Paola Casadei de tenir cette soirée. Elle est écrivaine, traductrice et enseignante. Et on lui a demandé de nous expliquer le pourquoi. Et ça a été une très, très belle soirée, très intéressante, très riche, avec un monde fou.
Attiré par un menu je dirais, variée.
Très variée, vraiment, ça a été une très très belle soirée qui s'est conclue d'ailleurs avec une dégustation de recettes qu'on avait tirées des romans dont on a parlé.
D'accord. Alors quand on a préparé l'émission, il m'est venu en tête, et j'imagine que d'autres auteurs aussi, que de l'autre côté, non pas des Alpes, mais des Pyrénées, le romancier Manuel Vázquez Montalbán avait pour héros de ses romans un détective privé, Pepe Carvalho, qui racontait des recettes, y compris qui racontait ses achats, et ensuite ses recettes. Alors c'est un peu cette même veine-là où se croisent, je dirais, la trajectoire littéraire et le goût du bien manger, c'est un peu la même chose.
Tout à fait, c'est vraiment intéressant que vous le disiez parce qu'on a commencé par parler d'Andrea Camilleri qui est peut-être un des plus grands auteurs du XXe siècle en Italie et en tout cas dans le genre du polar et du noir et qui s'est inspiré de Manuel Vázquez Montalbán pour créer son personnage Montalbano.
Ah, alors donc il y a une version d'une série télévisée là avec le même Montalbano.
Et il y a aussi une série télévisée qui a été très, très à la mode, vue par tous les Italiens, qu'on voit en France. Et en fait, dès qu'on pense à Montalbano, on pense aux arancini, par exemple. Arancini, c'est des petites boulettes de riz panées que nous avons d'ailleurs dégustées à la fin de la soirée, qui D'accord. avait été préparée par un restaurant du quartier, Bichou. Et voilà, donc il y a vraiment un lien très fort. Vraiment, le début de l'écriture de Camilleri, qui était pourtant plus âgé que Vázquez Montalbán, a vraiment son origine dans ce que vous dites.
Très
et
bien.
Donc, dans ces livres aussi, vous trouvez les recettes au milieu des livres. Et ça parle tout le temps. Et vous sentez les odeurs, vous voyez les couleurs des recettes. C'est vraiment impressionnant.
Très bien. Alors, voilà qui nous met à l'appétit. Donc, on poursuit le parcours dans le programme. Vendredi 14 mars, donc vendredi prochain à 19h, ça s'appelle « Coup de cœur italien ». Une formule là aussi bien dans le style de la cavale qu'on vient d'évoquer. Alors, Rosemary Rolls, comment ça va se passer ce rendez-vous « Coup de cœur italien » ?
Coup de cœur à la cavale, c'est un rituel mensuel où l'idée, le sens, c'est de venir parler des livres, mais tout simplement. Parler de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, parler de l'auteur, lire une phrase, voilà, et rendre un peu la littérature, la rapprocher de notre vie et de nos sensations. Mais surtout, l'essentiel, c'est de, si on a envie d'en parler, de partager cela avec d'autres. Voilà, donc italien, cette fois, les coups de cœur italiens, bien voilà, l'idée c'est, vous avez aimé un roman, vous avez aimé une poésie, vous avez aimé une chanson en italien, eh bien, autour d'une table, tout simplement, on vient, on en discute, on la présente, d'autres présenteront d'autres livres. Voilà, et l'idée, c'est de rapprocher un peu la littérature de la vie de tous les jours, de ce qu'on a envie d'en parler. Voilà.
Donc simplement, mais avec, je dirais, le goût, hein, pour reprendre le mot qu'on vient d'employer tout à l'heure, qu'on a trouvé à telle ou telle lecture ou rencontre avec une forme d'expression en italien.
Voilà, alors pour cet événement particulier italien, on a préparé sur les présentoirs de la cavale, sur beaucoup des livres de la cavale, il y a des petites notules que les coopérateurs écrivent.
Pour encourager le lecteur.
Voilà, lesquelles on écrit un petit mot, un petit avis, une pensée, quelque chose pour accrocher et pour donner envie de lire. Donc là, dans notre groupe, on en a préparé quelques-uns et ils sont présentés sur les présentoirs de la cavale. Voilà, et donc pour cette soirée-là, nous allons présenter quelques nos coups de cœur. Et puis, les personnes pourront venir avec les leurs, soit qu'elles auront choisi dans le présentoir ou d'autres. L'idée, quand même, c'est d'être sûr de la littérature italienne traduite.
Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, tout ça se fait tranquillement, je dirais, sans, en toute simplicité.
Sans prétention.
Sans pédanterie.
Voilà.
Et, comme on l'avait dit, à la bonne franquette.
À la bonne franquette, si vous voulez, oui, c'est ça.
Alors, ça aussi, c'est le style de la cavale, comme on vient de le voir. Alors, autre rendez-vous, c'est quelque temps plus tard, le jeudi 27 mars, toujours à 19h, ça s'appelle Encre, l'encre du stylo au singulier et bobine au pluriel, vous voyez l'image, sous-titre littérature et néoréalisme dans le cinéma italien, avec Simona, une intervenante, Jeanne Brechet, dont vous allez nous parler pour nous dire comment ça va là aussi fonctionner, comment cet échange, ce croisement de regards va s'opérer.
Oui, alors déjà, qui est Jeanne Bréchet, et elle est enseignante en histoire, en esthétique du cinéma et analyse filmique dans plusieurs écoles, comme l'école Travelling, et aussi dans des dispositifs lycéens, cinéma. Et aussi, elle anime des ciné-clubs à Téhéran et Latte. Donc, elle fait beaucoup de choses autour du cinéma. C'est une personne qui est... C'est une grande experte, très passionnée et enthousiaste, qui a toujours beaucoup, beaucoup d'anecdotes à livrer. C'est quelqu'un qui est pétillant de savoir et d'envie de partager.
Ce n'est pas la conférencière pesante,
ah non.
Très académique,
non,
qui
non,
fait
non,
fuir
non.
les participants. C'est
absolument,
au contraire.
Absolument. Tout comme avec Paola Casadei mardi. Voilà, on essaie toujours de rester dans cette idée de convivialité avec nos invités et d'inviter les personnes qu'on sait qui vont l'être. Et donc, pendant cette soirée, elle va nous présenter à sa façon qui est très, très originale, très illustrée. Elle va nous raconter un petit peu, nous insérer dans ce monde qui fait un peu le lien entre littérature et cinéma, de comment ça peut se faire, comment ça se passe concrètement.
Comment le cinéma s'inspire de la littérature,
voilà.
Et vice-versa peut-être,
oui.
Aussi.
Et comment il y arrive et comment il n'y arrive pas. Parce que justement, elle va nous raconter, mais elle le dira beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, elle nous pose la question, mais entre Rossellini et Visconti, qui a ouvert ce bal du néoréalisme au cinéma et quel est le rapport avec un auteur italien qui n'est pas connu en France, c'est un peu le Zola italien quelque part, mais enfin, avec certaines différences, quoique Zola il était italien aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, donc c'était Giovanni Verga, un auteur réaliste, et comment le cinéma néo-réaliste a essayé de mettre à l'écran l'héritage de cet auteur.
Ah oui, de le transcrire ou de le traduire dans les formes cinématographiques en partant d'un texte littéraire.
Voilà, et Visconti a essayé de faire des choses qu'il n'a pas réussi à faire, mais par la suite il a réussi quand même à en faire quelques-unes, y compris par exemple le film Ossessione. Si vous regardez l'affiche de l'événement, il y a une image, c'est une photo de Visconti qui dirigeait ses acteurs, y compris une actrice qui, Clara Calamai, qui a été la première diva italienne, qui a inspiré, si j'ai bien compris, aussi les divas hollywoodiennes.
De l'époque suivante.
L'époque suivante. Donc il y a vraiment beaucoup de... Elle va nous raconter beaucoup d'anecdotes.
Bon, moi, je suis expert ni de la littérature italienne ni du cinéma italien. Moi, j'ai vu des films italiens, bien sûr, mais c'est assez nouveau comme approche, comme regard. Ça échappe aussi à la manière assez habituelle, voire conformiste, de parler du cinéma italien dans cette approche.
Oui, moi, je pense que c'est surtout l'approche de Jeanne qui est originale, ouais. La façon qu'elle a de présenter les choses. Oui, tout à fait.
D'accord. Donc là, on a vu aussi comment la Cavale a essayé d'apporter une approche, un regard nouveau. Sous cette forme. Alors, rendez-vous suivant, ça se passe le samedi 29 mars à 11h, un samedi matin, donc, ça s'appelle Lecture Jeunesse Bilingue, je l'ai évoqué au début. Vous le savez bien, Rosemary Hall, la Cavale accorde une attention particulière au livre pour la jeunesse. Alors, cette fois, comment va se dérouler ce moment ?
Tout à fait. Alors, donc, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous italien. Et on a choisi, on a sélectionné une douzaine d'albums de jeunesse, à la médiathèque d'ailleurs, qu'on a regardé avec beaucoup d'intérêt, tellement les graphismes, tellement les textes sont magnifiques et d'ailleurs peuvent être tout à fait aimés par des adultes. Donc on a sélectionné notamment des livres de Gianni Rodari et de Tullio Corda, surtout, et d'autres aussi. L'idée, c'est de faire peut-être... On s'adaptera certainement aux enfants qui seront là présents. On propose que ce soit à partir de 6 ans. Et l'idée, c'est, avec les enfants, de lire, de rentrer dans cet univers de la littérature, enfin, de ces auteurs, notamment sur... moi, j'en ai apprécié un plus particulièrement de Gianni Rodari, c'est sur le nombre zéro. le nombre zéro. Je trouve que Rodari, il a écrit tellement de belles...
C'est un nombre très spécial, et fascinant, voilà, qui c'est passionne fascinant. Les philosophes et les mathématiciens, voilà, ça sera
exactement,
le cas.
Exactement. Donc, franchement, ce zéro qui ne compte pour personne, et personne ne compte sur lui, et quand il rencontre le 1, voilà. Bon, c'est ce genre d'histoire qu'on va raconter. Simona, tu vas les raconter, tu vas les lire en italien.
Bah, c'est ça, voilà, c'est important. Ouais. Il y aura des lectures en français et en italien.
Et en italien.
C'est des livres accessibles, bien sûr, aux petits Français qui ne connaissent pas l'italien, mais quand même cette ouverture vers la langue ou la musique, la musique de la langue italienne dans laquelle les enfants vont se situer.
Très bien. C'est tout à fait ça.
Et c'était très intéressant parce qu'on a trouvé vraiment beaucoup de livres de Rodari et de Tullio Korda. Rodari, il faut imaginer quand même, il a écrit ce livre qui plaît beaucoup à Rosemary, et il en a écrit aussi beaucoup pour les enseignants et pour les parents. Enfin, pour les enfants, mais à l'attention quand même des adultes.
Il a
vraiment rendu l'Italie plus créative avec ses livres. Il nous a vraiment donné des outils, transmis des outils pour une pensée plus libre dans le pays. À l'époque. Et Tullio Korda...
L'époque, c'était quelle époque ?
Alors, c'était les années... Disons qu'il était très, très à la mode dans les années 70, je dirais, même avant. Et ça continue. Et Tullio Korda, il y a aussi beaucoup de ses livres parce qu'il a exposé ses planches à la médiathèque Zola de Montpellier. Il a été invité spécial. Donc voilà, c'est un sarde qui habite à Lyon. Donc lui, il écrit directement en bilingue.
Donc il était parfait pour travailler avec vous dans ce rendez-vous, alors, pour le coup. Alors, vous l'avez évoqué l'une et l'autre. Bon, je pense que beaucoup d'auditeurs le savent. En France, on a assisté ces dernières années à une profusion de livres de jeunesse de grande qualité, littéraires et graphiques. Il y a un peu le même phénomène, là, en Italie, là, de ces livres pour enfants qui étaient des espèces de pensums vaguement coloriés. Enfin, souvenir de ma jeunesse. Là, c'est tout autre chose. Ça, c'est ouvert. Hein, et c'est un phénomène comparable en Italie, là, du côté des livres pour la jeunesse.
Je pense que oui. Et on a même à Bologne, on a un énorme salon du livre pour les enfants, bref. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même un grand mouvement. Et depuis longtemps, je crois que justement Rodari a vraiment donné le là, a vraiment été un grand personnage qui a aidé tout cela à se développer plus facilement.
Alors, dernier rendez-vous, donc, ça sera le 8 avril à 19h, une rencontre avec Maddalena Vagliotanet, vous excuserez ma prononciation. Alors, même chose, Simone, quelques mots pour présenter ce livre et cette écrivaine, brièvement parce que le temps passe.
Ah oui, donc déjà, j'aimerais bien dire que c'est une rencontre qui est soutenue par l'Institut italien de culture de Marseille et par le département d'études italiennes de l'Université de Paul Valéry. Alors, Maddalena Vagliotanet, c'est une écrivaine, une autrice qui a écrit pour la jeunesse et aujourd'hui aussi pour les adultes. Elle a été sélectionnée pour le prix Strega, qui est un prix un peu équivalent du Goncourt. Elle avait été finaliste pour un livre pour l'enfance et aujourd'hui, l'année dernière, elle a été sélectionnée aussi pour le livre que nous allons présenter, qu'en français, on appelle Sylvia et les ombres, alors qu'en italien, c'est Tornare dal bosco. Il a été traduit dans plusieurs...
Tornare dal bosco, ça veut dire tourner autour...
Revenir du bois. Oui. Et dans les autres langues dans lesquelles il a été traduit, pareil, il parle de bois. Je ne sais pas pourquoi en français ils ont choisi ça. On va le découvrir peut-être avec elle. Et c'est intéressant parce qu'elle est aussi scout littéraire. Donc elle a une double fonction qu'il sera vraiment intéressant de découvrir ce soir-là avec elle.
Très bien. Alors, on poursuit donc, mesdames, notre parcours avec un mot sur le dernier élément de ce programme, une exposition qui s'appelle Anima Urbis de Claudia Montanari. C'est les photographies de Palerme. Alors, vous pouvez peut-être, Rosemary, nous en dire un mot à vos yeux. Qu'est-ce que ce travail sur la ville de Palerme et la Sicile, pour le coup, apporte de particulier, de singulier, qui mérite attention ?
Alors, Claudia Montanari, l'autre soir, pour l'inauguration, parce qu'en fait, cette exposition, elle a été présentée... elle a été présentée à la Maison internationale... là, j'ai oublié le reste du sigle, je crois.
Maison des relations internationales.
Sur l'esplanade. Oui.
Voilà. Et alors que là, pour la cavale, il y avait simplement 12 clichés qui avaient été sélectionnés, notamment sur la ville de Palerme. Et donc, Claudia Montanari, elle a expliqué qu'en fait, pour chacun de ces clichés, elle avait essayé d'incarner quelque chose qui, pour elle, était important dans son regard à elle de ce moment. Et dans les clichés qu'elle présente, moi par exemple je suis allée à Palerme, et dans les clichés qu'elle présente, je trouve que la façon qu'elle avait de les présenter a tout à coup dans les mémoires, et je crois que dans l'assemblée il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient aussi Palerme, et de voir des clichés comme ça très particuliers, à la fois ça rappelle des souvenirs et en même temps ça ouvre un univers.
Ah oui, parce que ça change le regard.
Ça change complètement le regard, voilà. Alors de l'exposition de l'exposition totale, je peux pas trop en parler parce que moi personnellement je ne l'ai pas vue, mais en tout cas les 12 clichés qui étaient à la librairie, je trouve que vraiment c'est une très 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 belle beau regard sur cette ville, hein. Parce que Palerme, voilà, c'est la Sicile, c'est la ville du sud, beaucoup de ressemblances et même temps de différences avec Montpellier, et beaucoup de liens d'ailleurs, hein, avec Montpellier. Oui. Voilà.
Très bien. Alors voilà, une autre occasion d'aller à la Cavale jusqu'au 29 mars. Donc, alors, il nous reste encore quelques minutes. On va profiter de l'occasion pour parler de l'Italie à Montpellier, Simona. Alors, je rappelle que vous œuvrez au sein de l'Association d'éducation populaire Italia Due Passi de Montpellier. Quelles sont ces activités? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, notre métier principal, c'est celui des cours de langue. Donc, les cours de langue italienne et de culture.
Ouvert à qui alors?
Ouvert à tout le monde,
adulte. Quel que soit l'âge,
adulte. Et donc, comme vous disiez initialement, c'est une association d'éducation populaire. Nous œuvrons surtout dans les maisons pour tous. Et pour nous, voilà, on a un peu le même objectif que la librairie La Cavale, au fond, c'est-à-dire de rendre la culture accessible à tout le monde et de la façon la plus conviviale possible. Voilà.
Oui, donc, ça veut dire que bon, votre alliance là n'est pas inattendue.
Oui.
Même approche, oui.
Voilà, et donc surtout les cours de langue, mais nous avons aussi beaucoup d'autres initiatives culturelles, comme un voyage chaque année dans une région peu connue du public français. Cette année, on va partir en Lombrie, et Rosemary va venir avec nous.
Dites aux auditeurs où c'est Lombrie.
C'est le centre de l'Italie, c'est la seule région qui n'a pas de frontière avec la mer ou avec d'autres pays.
Alors, c'est le poumon vert. Par rapport au Latium, c'est à côté alors,
Oui, ça, ils ont des frontières communes. Voilà, c'est pourquoi les populations étrusques, vous les trouvez dans les deux, et puis les Romains aussi. Et on fait aussi beaucoup d'autres choses, un peu comme toutes les autres associations. Après, les rencontres littéraires, les partenariats avec le cinéma, de très important, les théâtres, enfin, on fait beaucoup, beaucoup. Le théâtre La Vignette de Montpellier, c'était très intéressant aussi.
Voilà, alors, donc, ça donne une idée. Alors, on va faire court parce qu'on arrive au bout. En préparant la mission, vous m'avez dit que il y a beaucoup plus d'Italiens à Montpellier qu'autrefois. Dites-nous un mot, là, puis je dirai un mot de ce que vous faites pour faire découvrir l'Italie à Montpellier.
Il y avait quelques centaines d'Italiens quand je suis arrivée, et maintenant, j'ai lu que nous sommes au moins 9 000. 9 000 enregistrés. Ça veut dire qu'on nous sommes beaucoup
consulat,
plus.
Donc.
Voilà, je pense que ça veut dire qu'on est beaucoup plus. Et je pense que, ça se voit d'ailleurs parce que vous entendez parler italien partout. Nous sommes en Italie, on dit qu'on est comme le persil, comme il prezzemolo. On est partout. Et vous le voyez effectivement dans les magasins, dans les restaurants italiens qui ouvrent. Là, on vient d'acheter par exemple des petits gâteaux juste à côté de la radio chez La Vita è Bella. Voilà, très bien aussi. Et pardon.
Allez-y. Il faut conclure, mais bon.
Il faut conclure.
Je vous coupe pas.
Alors, et justement, il y a beaucoup d'associations italianistes ici. Il y a donc Italia Due Passi, il y a i Dilettanti, il y a la Dante, et il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes tous différents et nous avons chacun et chacune sa place. Et parce que on a un monde autour de nous de personnes passionnées par notre langue et notre culture qui est formidable.
Très bien. Alors. J'ai une dernière information, je vous la donne, et ça me donne l'occasion de vous inviter. Vous proposez des balades urbaines à Montpellier pour montrer où est l'Italie et comment des Italiens ont contribué à façonner Montpellier. Donc, je vous remercie l'une et l'autre. Je rappelle que la Cavale d'Italie poursuit son chemin jusqu'au 8 avril. C'est l'occasion de découvrir des écrivains italiens, au-delà de ceux que je connaissais, Elena Ferrante, Umberto Eco, Elsa Morante ou Italo Calvino. La librairie La Cavale, c'est dans le quartier des Beaux-Arts, 24 rue de la Cavalerie. Et on peut trouver des informations sur la page de Facebook. Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Grazie.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.